France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Une nation engagée, unie et solidaire, voici le thème de la cérémonie de ce 14 juillet. Pas un défilé, impossible en raison de la crise sanitaire, mais une cérémonie en format réduit qui mettra à l'honneur les militaires et civils mobilisés ces derniers mois face à la pandémie. Place de la Concorde à Paris, tout à l'heure, sera particulièrement saluée la participation des armées au sein de l'opération Résilience. Transport de masques, protection de sites sensibles, appui sanitaire. Un hommage à l'ensemble du monde soignant, civil et militaire clôturera la cérémonie au son de la Marseillaise. La patrouille de France réalisera un second passage exceptionnel en leur honneur. 2000 participants, 2500 invités, parmi lesquels des soignants donc, mais aussi des caissières, des éboueurs, des enseignants, des agents funéraires. Toutes ces professions, dit l'Élysée, qui ont permis à la France de tenir et dont les Français veulent voir le comportement exemplaire honoré. Si Emmanuel Macron a finalement cesser de dire « nous sommes en guerre », l'expression « première ligne » est restée, utilisée hier encore par le Premier ministre Jean Castex au moment de signer les accords de revalorisation dits du Ségur de la Santé. Les applaudissements au balcon ne sont plus, mais l'expression « héros du quotidien » demeure pour qualifier la première ligne, mais aussi la deuxième, la troisième, dont des représentants seront donc place de la Concorde ce matin. Bonjour Stéphane Audouin-Rouzeau.
Bonjour.
Historien, directeur d'études à l'EHESS, président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour réfléchir à cette question. Qu'avons-nous fait pour nos héros? D'abord, cette cérémonie du 14 juillet aujourd'hui, la façon dont elle a été pensée, la façon dont elle est présentée, comment la percevez-vous? Quel est ce moment?
Il me semble que, effectivement, vous le disiez vous-même dans votre présentation, nous sommes dans la droite ligne, au fond, du discours, au fond d'Emmanuel Macron, du président de la République, le discours du 12 mars, hein, ce discours « nous sommes en guerre », donc une rhétorique qui n'a pas été reprise dans les propos suivants au mois d'avril, dans les allocutions suivantes au mois d'avril, mais il y a cette idée, effectivement, que un temps de guerre finalement s'est installé qu'il y a un processus au fond d'héroïsation de ceux qui sont les plus exposés dont la vie a été la plus exposée pendant la pandémie, et de ce point de vue on voit bien que on est dans cette manière qu'a eu le président mais pas lui seulement de rabattre au fond la crise sanitaire actuelle vers le référentiel, au fond, le référentiel 1914-1918, le référentiel de la Grande Guerre qui reste aujourd'hui en France le grand événement auquel on peut s'adosser pour tenter, peut-être à tort d'ailleurs, pour tenter de comprendre et d'interpréter ce qui est absolument nouveau, c'est-à-dire notre présent.
Et de ce point de vue, associer les soignants et les autres à une cérémonie militaire, c'est évidemment très fort.
Évidemment, les héros sont généralement des héros militaires, ou en tout cas ils ont vocation à être militarisés. Il y a cette idée de sacrifice, sacrifice c'est ce qui rend sacré étymologiquement, ce sacrifice il est d'abord un acte de nature militaire, puisqu'il s'agit d'engager sa vie pour la défense, en l'occurrence d'une nation, pour la défense d'une patrie. Ce que je vois de très le lien, le pont que je vois entre ce qui, notre manière de penser et de donc ce sacrifice, les héros en blouse blanche, les héros du quotidien, cette expression qui s'est imposée, c'est une véritable démocratisation de l'héroïsme qui a sa source dans la Grande Guerre. Les héros au départ dans l'Antiquité gréco-romaine, ce sont des êtres mi-dieux, mi-hommes. Oui. Donc là, c'est tout à fait différent. Le terme prend un autre sens. Marc Bloch le disait de manière extrêmement intéressante à l'entrée en guerre d'août 14. L'historien Marc Bloch, oui, qui dans ses souvenirs de guerre, dit il y avait ceux qui partaient, c'était la noblesse. Donc la noblesse, une sorte d'aristocratie de masse, constitué par tous ceux qui allaient risquer leur vie. La Grande Guerre, cette manière de regarder ceux qui allaient, les combattants, cette manière a continué de s'imposer pendant le conflit, et s'est imposée jusqu'à nos jours. Et il me semble que c'est de cette manière que nous voyons effectivement ces héros du quotidien comme une sorte d'aristocratie de masse, mais qui a comme caractéristique étonnante qu'il s'agit des gens ordinaires, entre guillemets, devenus extraordinaires. Qu'il s'agit au fond d'une masse de gens qui sont dont on l'a dit qui étaient généralement plutôt en bas de l'échelle sociale et qui sont promus en quelque sorte dans une sorte d'aristocratie sociale et un peu sur le modèle effectivement des soldats de 1914-1918.
Mais alors justement Stéphane Audouin-Rouzeau, qu'est-ce qui fait le héros? Parce que beaucoup de soignants en particulier interrogés ces derniers jours, et on en entendait encore à 7h dans le journal, disent on a fait notre travail et on l'a fait dans des conditions extrêmement difficiles, sans super pouvoir, mais eux, ils n'acceptent pas forcément d'être qualifiés de héros.
Généralement, ils ne l'acceptent pas.
Ouais.
À dire vrai, les soldats de la Grande Guerre ne l'acceptaient pas non plus. Et trouvaient ridicule qu'on parle de leur héroïsme, qu'on les traite de héros. Eux-mêmes considéraient qu'ils n'avaient fait que leur devoir, comme ils disaient, que leur travail, même, dans un certain temps. Et vous voyez, par exemple, le très grand, il y a une phrase tout à fait remarquable du grand résistant Jean-Pierre Vernant, pour Libération Sud, et qui dit que l'héroïsme, c'est quelque chose qui vous a dépassé. Il dit ceci: sans avoir le sentiment de faire un choix, on se trouvait jeté au premier rang. Dans le cours des événements, quelque chose entre en jeu qui s'impose et vous dépasse. Et, vous voyez, et je me demande si il n'y a pas quelque chose de cet ordre pour justement les soignants, pour les héros du quotidien, quelque chose qui ne vous appartient pas, dans lequel vous êtes pris, qui vous a saisi en quelque sorte, mais évidemment qui ne correspond pas à notre définition en quelque sorte un peu abstraite de ce qu'est l'héroïsme.
Et oui, alors justement, pour qui est-ce le plus important finalement, ce qui va se passer ce matin, place de la Concorde? Est-ce pour les personnes qui sont mises à l'honneur, pour ceux qui ont décidé d'organiser cette cérémonie, ou pour nous tous, pour tenter d'aller vers cette nation engagée, unie et solidaire, pour reprendre le thème choisi? Autrement dit, à qui sert la figure du héros?
Ah, très bonne question, à mon avis, pour les trois. Pour les trois composantes. Ce que l'on voit se mettre en place, là aussi, pour un historien de la Grande Guerre, c'est assez évident, c'est ce qu'on appelle une économie morale de la reconnaissance. Dans le cas de, et ça a commencé tout de suite, si je puis dire, puisque dès le mois de mars, le président de la République disait voilà, les soignants, ils ont des droits sur nous, reprenant une formule de Clémenceau lors de son discours d'investiture de novembre 1917. Cette économie morale de la reconnaissance, qui n'a jamais cessé jusqu'à nos jours. Nous en avons encore un témoignage dans tous les villages de France, c'est le poilu sur le monument aux morts. C'est une économie morale de la reconnaissance, qui s'adresse évidemment d'abord à ceux que l'on remercie, donc les acteurs sociaux eux-mêmes, qui s'adresse bien entendu aussi à nous. C'est un exemple qui nous est donné, c'est une manière de nous récompenser nous-mêmes d'avoir eu dans le corps social de telles personnalités qui se sont mises en avant. Et puis bien entendu, il y a la classe politique elle-même, le politique qui cherche à capter et à maîtriser cette économie morale de la reconnaissance. Il s'agit surtout pas que cette économie morale de la reconnaissance lui échappe, voire s'organise contre lui. Vous imaginez évidemment le danger. Donc au fond, nous sommes tous pris, me semble-t-il, dans ce mouvement de reconnaissance. C'est ce qui en fait à la fois l'intérêt sur le plan social et puis également l'ambiguïté. L'ambiguïté, parce que si cette économie morale de la reconnaissance était absolument performative, c'est-à-dire que si elle était aussi largement partagée qu'on le croit, lors des grandes manifestations de soignants, par exemple du 16 juin, les soignants n'auraient pas été seuls à manifester. Vous voyez, des centaines de milliers de Français ou de Parisiens auraient pu se joindre à eux. Ça n'a pas été le cas.
Et justement, alors il y a eu hier la signature de ces accords du Ségur de la Santé, un plan d'un peu plus de 8 milliards d'euros qui prévoit des hausses de salaires et de primes. finalement ce qui était réclamé dans la rue depuis des mois, avant la pandémie, le Premier ministre a présenté ce plan comme un effort historique, signe de reconnaissance à l'égard de ceux qui ont tant donné. Finalement, ce sont les héros plus que les soignants là qui ont été récompensés, non ?
C'est-à-dire qu'une économie morale de la reconnaissance, donc qui joue sur le symbolique, ne se sépare pas d'une, évidemment, des signes matériels de cette reconnaissance. Les signes matériels, économie morale de la reconnaissance et économie matérielle de la reconnaissance vont évidemment de la main dans la main. Et là encore, pour un historien de la Grande Guerre, il n'y a rien de surprenant à cela. Alors, dès 1919, en mars 1919, sont votées par le Parlement une grande loi sur les pensions pour les blessés et les invalides. Un ministère des pensions est créé en 1920. À partir de 1930, c'est la retraite du combattant et les anciens combattants, les soldats de la Grande Guerre devenus anciens combattants, selon la formule française, n'ont jamais cessé de revendiquer leurs droits, d'essayer de les étendre, de les défendre dans de grandes associations. Vous voyez, les deux choses vont de pair. Les deux choses vont de pair. Et donc nous sommes dans ce moment, qui n'est pas terminé en même temps, où il y a à la fois la mise en place de cette économie morale de la reconnaissance, avec sans doute toutes ces ambiguïtés, et puis une économie matérielle de cette même reconnaissance qui est actuellement en cours et qui probablement, le processus n'est pas terminé. On assistera sans doute à tout un accompagnement de ce processus avec rappel évidemment du sacrifice pour actualiser, renforcer les mesures matérielles dans les mois, dans les années à venir. C'est un processus au long cours, très probablement.
Et avec aussi peut-être un risque d'une certaine forme de hiérarchisation entre les héros, entre les premières lignes, deuxième ligne, troisième ligne. Là, les soignants, même si tous ne sont pas satisfaits, ont obtenu donc des revalorisations. Qu'en est-il des autres? Voilà, dans la distribution, tout le monde n'a pas eu de prime, du côté des éboueurs, des livreurs, dont on connaît aussi les conditions de travail. N'y a-t-il pas, justement, un risque de hiérarchisation entre les différents héros du quotidien?
C'est évidemment, là encore, une des ambiguïtés de cette économie morale de la reconnaissance. Quand le président de la République avait parlé de cette première, deuxième, troisième ligne, nous-mêmes étions la dernière ligne, enfin oui, les citoyens ordinaires étions la dernière ligne, mais une ligne quand même, en quelque sorte. Tout le monde devait être pris, au fond, dans cette forme d'héroïsation. Et là aussi, il emploie une terminologie de la Grande Guerre, où il y a ceux qui combattent vraiment à l'avant de l'avant, et qui courent les risques les plus importants, et puis les combattants des lignes suivantes qui restent très exposés mais qui le sont tout de même moins, et puis voilà, et la population civile qui est elle très peu exposée ou pas du tout, mais qui néanmoins travaille à l'effort de guerre, etc. Donc il y a cette vision d'une société comme ça pyramidale, mais qui au fond est supposée avoir travaillé en quelque sorte exactement dans le même objectif, ce qui d'ailleurs resterait à prouver sur le plan sociologique, mais peu importe. Ici on est dans un univers de mots. On est dans un univers de représentation. Alors évidemment, se pose la question qui s'était déjà posée, c'est qu'au fond, qui récompense-t-on? Qui récompense-t-on? Tous les soldats n'ont pas eu la carte du combattant. Il fallait avoir fait 3 mois de front pour l'obtenir. Tous les soldats n'ont pas eu la croix de guerre. La moitié seulement l'ont eu, etc. Et donc, vous avez toute une hiérarchie qui se forme et une hiérarchie qui éventuellement est revendiquée par ceux qui sont l'objet de cette économie morale de la reconnaissance. Attention, il ne faut pas confondre entre, évidemment, l'infirmière qui, tous les jours, a pu risquer d'être contaminée et donc risquer éventuellement sa vie, et les autres qui, certes, ont eu toute leur utilité, mais etc. Et donc il y a là évidemment des points de tension à venir dans tout ce système qui se met en place et dans lequel nous sommes pris, que nous le voulions ou non.
Alors Stéphane Audouin Rousseau, pour illustrer ce que vous disiez à l'instant sur les mots employés et pour voir cette continuité justement dans le choix des mots, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron hier soir à propos de la cérémonie d'aujourd'hui. Il s'adressait aux militaires.
Tous ensemble, nous rendrons un hommage mérité à celles et ceux, professionnels ou volontaires, qui se sont mobilisés dans tous les secteurs, en première ligne, en dépit du danger, en deuxième et troisième ligne et à l'arrière, pour permettre à la vie publique, sociale et économique de continuer, pour permettre, au fond, à notre nation de tenir. Demain aussi, nous entourerons les familles endeuillées de ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. Autour de vous, soldats, marins, aviateurs, autour du personnel médical, autour des forces de sécurité, autour de tous ceux qui ont mis leurs forces, leurs compétences, leur humanité dans cette bataille contre le virus, cette cérémonie sera le symbole de l'engagement de toute une nation.
Stéphane Audouin-Rouzeau, vous aviez donné le 12 avril à Mediapart un entretien très remarqué dans lequel vous reveniez donc sur la référence à la Grande Guerre et vous parliez d'un temps de guerre. Sommes-nous toujours dans ce temps de guerre ?
Oui, je crois que nous sommes toujours dans une forme de temps de guerre, mais pas tout à fait le même temps. Le temps, je crois qu'il y a eu effectivement d'abord, au moment de l'annonce du confinement, une sorte de sidération collective, d'arrêt du temps, et en même temps de temps très densifié qui ressemblait effectivement à ce que les contemporains ont dit avoir ressenti à l'été 14, en août 14 très très précisément. Et puis ensuite on a eu cette pendant le confinement cette stase, cette espèce d'arrêt du temps qui était lié au manque de perspective d'avenir. S'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de présent. Et le présent a été en quelque sorte arrêté, puisque il n'y avait pas réellement de perspective. Depuis le déconfinement, il me semble qu'on vit autre chose. D'abord, on vit l'allongement du temps de guerre, en quelque sorte. Ça n'est pas fini, on ne cesse de nous le dire. Et le terme de la crise finalement ne cesse de reculer, exactement comme en temps de guerre. Le terme de la fin de la guerre ne cesse de reculer. On est parti pour 2 mois, 3 mois, puis 6, etc. Et il y a aujourd'hui quelque chose qui me paraît ressembler, puisque je réfléchis à cette question du temps, au temps de la drôle de guerre. Donc la drôle de guerre, celle qui sépare septembre, l'entrée en guerre de septembre 1939 jusqu'à l'offensive allemande de mai-juin 40, où il y a l'attente d'un événement. Il y a l'attente de quelque chose, on sait qu'il va se passer quelque chose, on le redoute, ce qu'on appelle la deuxième vague, etc. Mmh. Et on sait qu'il va arriver et on attend cet événement et notre temps se trouve en quelque sorte suspendu dans une attente très forte, assez angoissée d'ailleurs ou angoissante. Et de nouveau, nous vivons une expérience du temps de guerre, mais cette expérience du temps se modifie elle-même en fonction en fonction de l'évolution de la situation. Pour un historien du fait guerrier, c'est un phénomène absolument fascinant.
Alors, pour conclure et sans abuser des comparaisons, Stéphane Audouin-Rouzeau, de la même manière que l'on parle des poilus, on parle aujourd'hui des soignants comme une catégorie, finalement, une espèce de grand ensemble. Il y a une façon un peu globalisée comme ça d'en parler, alors qu'évidemment, ils n'ont pas tous vécu la même chose. C'est ça aussi l'héroïsation, c'est une globalisation.
Ah oui, pour que l'économie morale de la reconnaissance fonctionne, et elle fonctionne, je crois, dans nos sociétés actuellement, il faut ce processus de globalisation. Si vous fractionnez au fond les héros entre guillemets en une multitude de cas différents, évidemment vous sociologisez en quelque sorte ce groupe qui est désigné comme héros en blouse blanche, héros du quotidien, et l'économie morale de la reconnaissance ne trouve plus de point auquel s'agripper. Il faut qu'il y ait effectivement une figure symbolique unique, exactement comme on a fait du poilu français une figure unique qui évidemment n'a jamais existé. Il y avait autant de soldats différents de poilus que de combattants véritables différents. Et ben c'est la même chose bien sûr pour les soignants, mais le discours que nous tenons ou que nous aimons tenir ou que nous aimons entendre, évidemment, se doit d'être différent.
Merci beaucoup Stéphane Audouin-Rouzeau, historien, directeur d'études à l'EHESS, président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre. Votre dernier livre, C'est la guerre, petit sujet sur la violence du fait guerrier, a été publié tout récemment aux éditions du Félin. Merci beaucoup.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Une cérémonie du 14 juillet sans défilé, mais qui mettra à l'honneur les militaires et civils mobilisés ces derniers mois face à la pandémie. 2000 participants, 2500 invités, parmi lesquels des soignants, mais aussi des caissières, des éboueurs. Toutes ces professions, dit l'Élysée, qui ont permis à la France de tenir et dont les Français veulent voir le comportement exemplaire honoré. Nous avons réfléchi avant 8 heures à cette figure du héros du quotidien, avec l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau. À présent, nous sommes avec Cathy Legac. Bonjour.
Bonjour.
Infirmière en réanimation, co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé APHP. Et bonjour Sabrina Boumaza.
Bonjour.
Gestionnaire de services et rayons chez Carrefour à Stain, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes militante CGT. Avez-vous le sentiment d'être des héroïnes? Vous retrouvez-vous dans ces expressions première, deuxième, troisième ligne, Cathy Legac?
Pas du tout. La plupart des soignants ne sont pas considérés comme des héros. On a fait notre travail. Dans des conditions délétères, avec pas de matériel, pas de masque, pas de blouse, et j'en passe, hein, tout ce qu'on a parlé pendant la crise sanitaire. Voilà, on n'est pas des héros, on a soigné dans des conditions difficiles, des patients difficiles, une maladie qu'on ne connaissait pas, compliquée, une maladie dont il n'y avait pas de traitement. Et c'est plutôt ça, c'est plutôt nous aussi, on avait, quand on allait soigner, on savait pas le soin qu'on allait forcément donner, quelle thérapeutique on allait mettre en place pour les patients, mais on est en aucun cas des héros, on a fait notre taf, notre job.
Et vous, Sabrina Boumaza, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, ça évoque quelque chose pour vous?
Non, ça ne m'évoque rien du tout, parce que nous, on a l'habitude de travailler... comme d'habitude, on vient le matin, on remplit les rayons. Mais c'est vrai que depuis le début de mars, cette période-là, elle a été très très difficile pour nous, parce que on nous a laissé à l'abandon, surtout notre direction, la PDG, enfin notre PDG, Monsieur Bompard, qui nous a laissé à l'abandon. On n'a pas été équipés, on n'a pas eu de matériel. Contrairement à ce qu'il a dit sur BFM TV, parce qu'il a annoncé sur BFM TV qu'en quoi à Carrefour tout se passait bien, qu'il n'y a pas eu de problème, alors que nous, nos salariés, ils tombaient comme des mouches.
Vous avez vous-même eu la Covid, vous avez été malade, vous avez une collègue et amie, je crois, qui est décédée.
Oui, Aïcha, qui est décédée, et moi-même qui a eu le Covid. Je remercie Dieu parce que je suis encore là, je suis revenue parmi les vivantes, comme on dit, mais ce qu'on a vécu et ce qu'on est toujours en train de vivre, parce que c'est pas fini, moi-même je suis en train de me combattre contre cette maladie, parce que j'ai encore des séquelles, et c'est vraiment constant. Si, comme elle a dit ma camarade Katia, on n'en sait rien de cette maladie. On est encore en train de la découvrir. Alors moi, je suis outrée quand j'entends que notre PDG qui dit que on a eu du matériel, on a été équipé, alors que nous on n'a jamais rien eu.
Ça, voilà, c'est votre vos relations avec votre direction. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu sur cette question de la reconnaissance. On a beaucoup dit, au plus fort de la crise, qu'on s'était un peu rendu compte de l'importance de certaines professions, comme celle que vous exercez dans la distribution. Oui. Est-ce que cette reconnaissance, sur le moment, vous l'avez ressentie, et qu'est-elle devenue depuis? Non. Je veux dire, vis-à-vis de la société, encore une fois, au-delà de votre direction.
Non. Moi, je la ressens pas, parce que, comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai demandé la reconnaissance de la maladie professionnelle, justement, suite à ma maladie, parce que j'ai été en arrêt de maladie pratiquement presque 3 mois. J'avais rien chez moi, mes enfants, ils étaient confinés, toute ma famille, enfin, je voyais personne. Je vais encore revenir sur ma direction, parce que vous savez, moi je suis encore énervée contre eux, parce que on n'a jamais cherché après moi, est-ce que mes enfants ils ont mangé ou pas. Si j'avais pas mon frère qui habite à côté de chez moi pour me faire mes propres courses, mes enfants ils allaient pas avoir à manger. Et là, concernant justement la reconnaissance de la maladie professionnelle, jusqu'à ce jour je suis en train de me battre au niveau des administrations, au niveau de la CPAM. On est coincé. C'est à moi de prouver qu'en quoi j'ai chopé la maladie dans mon lieu de travail. Voilà. Donc moi, je trouve ça aberrant. Vraiment aberrant de prouver. C'est à moi de prouver qu'en quoi je suis tombée malade. Alors que le jour où j'ai été vraiment malade, j'ai été transportée à l'hôpital, c'est ce jour-là, le même jour, j'ai travaillé. Jusqu'à ce jour-là. Donc c'est ça qui au fait, je suis outrée d'entendre ce genre de choses.
Cathy Le Gac, vous êtes co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé. Vous avez travaillé vous aussi hein, donc en réanimation au plus fort de la crise. Votre syndicat n'a pas signé les accords du Ségur. Vous estimez que le compte n'y est pas. Vous ne serez pas à Place de la Concorde tout à l'heure. En revanche, vous allez manifester. Quel type de reconnaissance attendez-vous aujourd'hui?
Donc oui, on va manifester. On demande une reconnaissance telle qu'on a demandé depuis un an et demi. En fait, ça faisait déjà un an et demi qu'on disait que la situation à l'hôpital n'allait pas. On réclamait 300 euros pour tous, on réclamait des lits. On a bien vu pendant la crise qu'il nous en a manqué des lits. On réclamait des effectifs. On a bien vu pendant la crise qu'il a fallu plus d'effectifs pour prendre en charge ces patients qui étaient compliqués à prendre en charge, que ce soit en réanimation ou en salle d'ailleurs. Hein. Et puis on a vu aussi pendant cette crise que qui était en première ligne, c'était les femmes. C'était les métiers des femmes, c'était les soignants, c'était les caissières. Après, bien sûr, il y a eu des éboueurs, mais dans la grande majorité, ceux qui ont tenu la France pendant ces deux mois, trois mois, c'est les femmes. Et on voit, quand on fait l'analyse, que ces femmes-là, eh ben, elles sont mal payées. On est sur l'OCDE qui prend tous les pays du monde, le 26e sur 29 pays, et on a la Lettonie, on a voilà des pays. Et quand on regarde les pays à nous comparables, eh ben on est bien en dessous en niveau de salaire. Et même aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le dossier de presse, on se gargarise d'avoir remonté de 6 positions, donc on va être 20e sur 29. Ah super. Mais voilà, c'est ça qu'il faut bien remarquer, que les femmes ont été les premières, les deuxièmes, les troisièmes lignes, et c'est elles qui ont eu un impact, et c'est elles qui ont été malades, et nous, on a eu 3 décès sur l'assistance publique, plus de 5% de nos personnels malades, et par contre, à la différence, c'est que à l'assistance publique hôpitaux de Paris, nous avons un directeur qui ne cherche pas à savoir où on a contracté la maladie si on l'a.
Sabrina Boumaza, nous sommes parlé un peu avant cet entretien. Vous m'avez dit, nous, on n'a rien. Les dieux, ce sont les soignants. Vous auriez aimé, par exemple, être invitée à la Concorde aujourd'hui, vous?
Un petit peu quand même, oui. On aurait aimé que certaines personnes, surtout les gens qui sont tombés malades, c'est une petite victoire, on va dire, qu'ils soient un petit peu reconnus, parce que...
Alors, il va y en avoir, hein, des salariés de la distribution.
Nous, on a vu que les gens qui ont été invités, c'est les personnes qui ont été filmées, surtout. Quand M. Macron, il s'est présenté, par exemple, à Leclerc, on a vu que c'est ces gens-là qui ont été invités. Mais là, nous, moi, personnellement, je travaille dans le 93. Nous, on n'a vu personne. Hein. L'épidémie, c'est là où vraiment elle s'est, envenimée. Oui. Et vraiment, c'est là où on était vraiment touchés. C'était vraiment dans le 93. Donc là, au jour d'aujourd'hui, nous, on voit personne.
Cathy Le Gac, que pensez-vous de cette espèce de hiérarchisation qui a été faite, ou en tout cas ressentie, la preuve avec ce qu'on entend là, avec effectivement les soignants vus de l'extérieur sacralisés, alors que vous-même, vous ne vous percevez pas comme ça?
Non, après, c'était instinctif. Les personnes étaient confinées chez eux. Les seules personnes qui pouvaient les soigner au cas où, ben, c'était les soignants. On était applaudis tous les soirs. On ne dit pas que ça ne nous a pas fait chaud au cœur d'être applaudis, d'avoir des artistes qui nous font des chansons. Voilà. C'est tout à l'heure, dans l'éditorial, on a bien dit, nous, on voulait le monde d'avant. On veut le monde d'après. On ne veut pas le monde d'avant. Et on s'aperçoit que ça soit avec le Ségur de la Santé, où on s'est précipité. Quand vous voyez le protocole, c'est du grand n'importe quoi. Et on met en avant le fait qu'on va être mieux rémunéré. Mais ça, c'est 10 ans, 20 ans de retard sur nos rémunérations. Un homme à métier équivalent à Bac plus 3, alors je parle des infirmières, hein, mais il y a tous les métiers à l'hôpital, il gagnera des fois 1000 euros de plus que nous. Nous, on demandait un juste équilibre. Et c'est pour ça qu'on sera dans la rue tout à l'heure. Et les soignants qui sont à Concorde et à l'Élysée, on n'a pas demandé aux gens. C'est-à-dire qu'on n'a pas réuni les équipes à savoir qui voulait y aller, à qui ça ferait plaisir. Non, on a choisi celui qui fera le moins de vagues, celui ou celle qui feront le moins de vagues, celui ou celle qui ne vont pas interpeller le président en disant ben écoutez, là, les revalorisations, ça va pas. Celui ou celle qui vont aller serrer la poignée de main, faire le beau sourire qui va bien, le consensuel. Et on va pas avoir l'interpellation du président comme on a pu voir à la Pitié-Salpêtrière, ou du moins ça m'étonnerait.
Merci en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin. Cathy Legac, infirmière en réanimation, co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé à PHP. Et merci Sabrina Boumaza, gestionnaire de services et rayons chez Carrefour à Stain en Seine-Saint-Denis et militante CGT.